Nous aurons donc à nouveau dans Éphésiens chapitre 2, nous aurons la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 2, et on va lire les sept premiers versets de ce chapitre. Éphésiens chapitre 2, donc les versets 1 à 7, l'apôtre Paul écrit ceci: « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Et jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Ceux qui s'opposent à la Bible aiment souvent souligner la dépravation des héros de la Bible. Par exemple, ils vont faire remarquer que Abraham était un lâche, qu'il était prêt à sacrifier l'honneur de sa femme pour sauver sa peau, et que la Bible ensuite va pourtant le décrire comme étant l'ami de Dieu. Ils vont dire de Jacob que la Bible le décrit comme un menteur et comme un tricheur, et puis ensuite comme étant le prince du peuple, et que Dieu va même se faire appeler le Dieu de Jacob. De Moïse, les opposants ou les athées, mais tous ceux qui s'opposent à la parole de Dieu vont dire, vont souligner que Moïse était meurtrier et que malgré ça, Dieu l'a choisi pour amener sa loi au peuple et pour apporter la loi dans le monde. Que David était le pire de tous. Il a séduit Bathsheba. Il a fait tuer son mari pour essayer de couvrir l'affaire. Et pourtant, Dieu va le décrire comme un homme selon son cœur. Alors comment est-ce qu'on doit répondre à ça? Tout d'abord, il faut dire qu'effectivement, c'est bien ce que la Bible dit. Elle a dit, tout cela est vrai. Et quelque part, c'est glorieusement vrai. Les héros de la Bible, à l'exception bien entendu du Seigneur Jésus-Christ, sont des criminels, sont, je dirais même, des canailles. Ils sont tous désobéis à la loi de Dieu. Ils sont tous pécheurs. Jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Et cela montre l'honnêteté de la parole de Dieu. Cela montre l'honnêteté de la Bible. Les autres livres, les autres religions, n'osent pas dévoiler les faiblesses, les péchés de leurs héros, comme le fait la Bible. Parce que la Bible ne s'appuie pas sur l'homme, mais elle s'appuie, elle fait confiance à Dieu. Et de plus, cette réalité, la description de ces héros de cette manière-là, non seulement est honnête, mais cela souligne que Dieu sauve des pécheurs. Pas des personnes qui sont bonnes, de toute façon il n'y en a aucun, on l'a déjà souligné avec Romain, mais des personnes qui sont pécheurs, qui reconnaissent qu'ils ont désobéi, qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Et il en fait ses enfants, il en fait ses serviteurs. Comme on a vu dans Romains chapitre 4, Dieu justifie l'impie. Il justifie celui qui ne mérite pas d'être réconcilié avec Dieu. Il justifie le pécheur qui vient à lui dans la repentance et la foi en Jésus-Christ. Et cela glorifie Dieu. Cette vérité, que Dieu nous sauve dans et malgré notre péché, malgré notre culpabilité, malgré notre déshonneur. C'est la même vérité que Paul enseigne dans ces deux mots que l'on trouve au début du verset 4. Mais Dieu. Dans les premiers versets de ce chapitre 2 d'Éphésiens, Paul souligne cette vérité que nous avons déjà soulignée en Romains, que nous ne sommes pas différents, qu'il n'y a aucune exception. Nous ne sommes pas meilleurs des autres. Paul s'adresse, je vous rappelle, à des chrétiens, comme on l'a lu au chapitre 1er, il s'adresse aux saints qui sont à l'église d'Éphèse, aux croyants. Mais il dit, mais que nous étions spirituellement morts. Nous étions captifs de ce monde, nous vivions selon le train de ce monde, nous vivions selon la chair. Nous étions captifs du prince de ce monde, nous étions sous la juste condamnation de Dieu. Paul insiste sur cette réalité. Il affirme cette réalité. Cela est vrai de tout le monde. Mais ensuite, il dit, il y a quelque chose qui fait la différence pour le chrétien. Et elle se résume dans ces deux mots, au début du chapitre, du verset 4. Mais Dieu. Mais Dieu. Un prédicateur bien connu, surtout en Angleterre, c'est un prédicateur gallois, du nom de Martin Lloyd-Jones, écrit ceci en commentant sur ce passage. Il dit « Ces deux mots résument en eux-mêmes tout l'Évangile. L'Évangile nous dit ce que Dieu a fait. C'est l'intervention de Dieu. C'est quelque chose qui vient entièrement de l'extérieur de nous et nous dévoile l'œuvre étonnante, l'œuvre magnifique de Dieu. » Ces deux mots « Mais Dieu ». Ces deux mots nous déclarent que lorsque les ressources et la force de l'homme ont disparu, quand le péché nous a amenés dans une situation désespérée, il y a pourtant un espoir, parce que Dieu est intervenu. Avant la grâce de Dieu, nous étions sans vie, nous étions esclaves de ce monde, nous étions en chemin vers la perdition. Mais à cause de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, nous qui croyons en Christ, Dieu nous a rendus vivants avec Christ. Il nous a ressuscités avec Christ pour toujours. On va donc étudier ce matin ces deux mots, mais Dieu. Et on va les voir sous trois angles. On va voir ce que ces mots nous disent au sujet du message de l'Évangile. Ensuite, ce que ces mots nous disent au sujet de Dieu. Et ensuite, ce qu'ils nous disent au sujet de la vie chrétienne. Mais Dieu. Donc, premièrement, ce que ces mots nous disent au sujet du message de l'Évangile. Et parfois, pour bien comprendre un message, il faut bien comprendre ce que ce message ne dit pas. Et c'est vrai en particulier ici. Paul ne nous appelle pas à l'action. Ça peut paraître étonnant quand on voit tout ce qu'il dit au sujet du péché et de cette terrible réalité que nous sommes pécheurs, on aurait pu s'attendre à ce qu'il dise quelque chose comme « Maintenant, faisons face au péché, organisons-nous, reprenons-nous pour que nous ne soyons pas morts dans nos péchés. » Mais Paul ne dit pas ça parce qu'il sait, ce que veut dire le terme « mort ». Et parfois, on a tendance à l'oublier. Il dit au verset 3, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Et cela veut dire qu'en ce qui concerne l'homme, il n'y a aucune lutte en ce qui concerne le péché. On est comme, pour prendre une image, on est comme Lazare en Jean chapitre 11, l'ami de Jésus. Il était mort, il était enterré. Et quand on lit l'histoire de ce que Jésus a fait, la seule chose que Jésus ne fait pas, c'est d'attendre que Lazare fasse quelque chose. Jésus ne s'est pas présenté devant la tombe de Lazare, s'est assis avec Marthe et Marie, et en se disant, « Bon, ben Lazare, il doit savoir que je suis là, maintenant on va attendre qu'il sorte de la tombe. » Non. C'est la seule chose que Jésus ne fait pas. Il n'attend pas que Lazare fasse quelque chose. Et de la même manière, le message de l'Évangile, ce n'est pas un message de morale, c'est pas un message d'exercice spirituel, c'est pas un message d'activité que l'homme pourrait faire. L'évangile n'offre pas des techniques d'auto-aide qui promettent d'arranger notre vie. L'évangile n'offre pas des marches que l'on pourrait gravir pour atteindre Dieu. Non. L'évangile commence par nous annoncer la terrible réalité que nous sommes morts dans notre péché, que nous sommes sous la colère de Dieu, qu'il n'y a aucun espoir en nous, ni en quoi que ce soit que nous fassions. Et quand on comprend cela, on saisit le message de l'évangile. On saisit ce que Paul veut dire dans ce passage, que Dieu est intervenu là où nous étions, dans notre mort spirituelle, pour nous donner la vie. C'est ce que ce passage nous dit. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon la puissance, le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Il n'y a pas de différence. Là, on rejoint ce qu'on est en train de voir en Romains. Nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais il y a quelque chose. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous étions morts, mais Dieu nous a rendu vivant avec Christ. Et comme Jonas s'est écrié en Jonas 2, verset 10, le salut vient de l'Éternel. Le salut vient de Dieu. Au début, on a mentionné Abraham, Jacob, Moïse et David, mais le meilleur exemple de péché et de salut se trouve au tout début de la Bible avec Adam et Ève. Adam et Ève étaient placés dans le jardin d'Éden. Ils avaient toutes les bénédictions possibles et imaginables. Dieu leur avait demandé de le reconnaître comme Seigneur et il les a mis à l'épreuve. Il leur a interdit de manger d'un seul arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est Genèse 2, versets 16 et 17. Ne pas manger de cet arbre symbolisait leur volonté de se reposer sur Dieu en tout. De ne pas être leur propre Dieu, de ne pas décider d'eux-mêmes ce qui était bien et ce qui était mal. Mais on connaît l'histoire. Ils ont été tentés par le diable et nos premiers parents ont désobéi à cette seule interdiction. Ils sont tombés dans le péché. Et pour citer encore une fois Lloyd Jones, il pose la question suivante. Quelle défense y a-t-il pour Adam et Ève ? Ils ont été faits à l'image de Dieu, ils vivaient dans le paradis, ils avaient la communion et une intimité parfaite avec Dieu. Ils possédaient toutes les bénédictions que l'on pouvait désirer. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont délibérément rebellés contre Dieu, ils ont désobéi à son commandement, ils ont mis leur volonté avant la sienne. Est-ce qu'il y a une excuse pour eux ? Est-ce qu'on peut les défendre ? Et la réponse est non, on ne peut pas les défendre. Il n'y a aucune excuse pour eux, tout comme il n'y a aucune excuse pour nous, pour notre péché. On ne peut pas plaider l'ignorance de la loi de Dieu parce qu'elle est enseignée dans sa parole. Elle est aussi gravée par Dieu sur notre conscience. Mais nous avons bafoué délibérément notre connaissance du bien et du mal. Dieu nous a créés. Il nous a donné toutes bonnes choses. Il nous a dit quelle était notre obligation devant lui. Et il nous a aussi avertis de la pénalité, de la mort qui vient avec le péché. Et Lord Jones conclut, il dit, « Nous devons réaliser qu'en tant que membres de la race humaine, nous ne méritons rien si ce n'est la destruction totale. » Même si l'homme cherche à jeter le blâme sur Dieu, le fait est que c'est quand même l'homme qui est coupable. Nous sommes coupables devant Dieu. Revenons à Adam et Ève. Ils ont péché, ils ont été sous le jugement de Dieu, ils étaient coupables, ils étaient fautifs. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Et vous connaissez l'histoire. Ils ont d'abord essayé de fuir devant la colère de Dieu. Ils se sont fabriqués des habits de feuilles de figuier et se sont cachés. Et c'est encore la stratégie encore de l'homme aujourd'hui, n'est-ce pas? On va essayer de couvrir son péché avec la fausse justice d'une œuvre supposée bonne. Et pourtant, nos œuvres sont toutes corrompues par le péché. Ou alors, on va essayer d'oublier que Dieu existe. On va essayer de nier son existence. Adam et Ève n'ont pas pu s'échapper devant Dieu parce que Dieu est Dieu. Il les a vus, il les a cherchés, il les a fait sortir de leur cachette, comme on l'a lu dans le psaume 139, les versets 7 et 8. « Où irai-je ? Loin de ton esprit. Où fuirai-je ? Loin de ta face. Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. » Ils n'ont pas pu se cacher devant Dieu. Après, ils ont essayé de jeter le blâme sur Dieu, mais Dieu est saint. Dieu ne peut pas être trompé. Et c'est lui qui est le juge. Il n'est pas menacé par nos plaintes, nos accusations sans fondement. Et on voit la situation d'Adam et Ève. Quand Dieu s'est approché d'Adam et Ève, ils ne pouvaient rien faire pour se mettre en règle avec Dieu. Ils ne pouvaient rien faire d'eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas enlever leur culpabilité. Ils ne pouvaient pas effacer leur responsabilité. Ils ne pouvaient pas nier la corruption du péché dans leur cœur. Ils ne pouvaient rien offrir de bien, aucune œuvre bonne, pour essayer de calmer la colère de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont été détruits éternellement comme ils le méritaient? La réponse, elle se résume encore une fois dans les mots de l'apôtre Paul. Mais Dieu. Quand on lit Genèse chapitre 3, on voit ce que Dieu a fait pour les sauver. Malgré leur péché, malgré leur désobéissance, malgré leur culpabilité, Dieu a prouvé son amour envers eux. On lit ceci, Genèse 3, verset 21, « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. » Dieu n'était sous aucune obligation de sauver Adam et Ève. Il aurait pu les condamner à la mort, directement, tout de suite. Non. Mais il a montré son amour, il a sacrifié un animal innocent à leur place. Il a transféré leur culpabilité vers ce substitut, cet animal qui a subi la condamnation à leur place, qui a subi la mort à leur place. Et il les a revêtus de la peau innocente de cet animal. Bien sûr, c'est une image, c'est une ombre de ce que Dieu va faire plus tard, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va venir dans le monde comme substitut, qui va prendre sur lui la culpabilité, les péchés de tout son peuple, de tous ceux qui croient en lui, subir la mort, subir la condamnation à leur place et accomplir le salut de son peuple. Ce qui est vrai d'Adam et Ève est vrai de nous ce matin. Nous sommes dans notre culpabilité, dans notre péché, nous sommes sans espoir, sans aucune manière de transformer le mal en bien. Esaïe 53, verset 6, résume, il dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Qu'est-ce qui va arriver ?» Esaïe continue. Si on pourrait dire, en paraphrasant l'apôtre Paul, il aurait pu continuer en disant « Mais Dieu !» Esaïe continue « Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Nous étions comme des brebis, nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et cela rejoint ce que Paul dit ici avec ces deux mots, « Mais Dieu ». Une expression à laquelle il faut sans cesse revenir. Mais Dieu, quand nous étions dans le péché, quand nous étions sans espoir, perdus, loin de Dieu, condamnés, Dieu a envoyé son propre Fils pour être l'agneau, le substitut, immolé à la place de son peuple. Romains 5, verset 8, Paul écrit ceci: Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ici, il dit, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, mais Dieu nous a rendus vivants avec Christ. Dieu a envoyé son Fils pour porter nos péchés à la croix, pour connaître la mort à notre place, à la place de son peuple, pour subir la condamnation à notre place. Mais nous savons qu'il est ressuscité pour donner la vie éternelle. On l'a chanté dans le cantique tout à l'heure, le numéro 241, la deuxième strophe. Tous les travaux de mes mains pour te plaire seraient vains. Lors même qu'en ma détresse, mes pleurs couleraient sans cesse, ils ne sauraient me laver. Toi seul peux et veux sauver. Est-ce que nous avons cru dans cet évangile? Est-ce que nous avons reconnu que en nous-mêmes, il n'y a absolument rien? Que nous sommes spirituellement morts sans la grâce de Dieu, que nous ne sommes sauvés de la condamnation juste de la colère de Dieu que par la grâce, l'amour qui sont en Jésus-Christ. La troisième strophe qu'on a chantée de ce même cantique: Seigneur, je n'apporte rien, ta croix seule est mon soutien. Je viens à toi sans ressources, souillé. Je viens à la source ouverte pour les pécheurs. Ah, rends-moi pur ou je meurs. Il n'y a aucun espoir en nous-mêmes. Tout notre espoir est en Jésus-Christ. Voilà le message résumé en deux mots. Mais Dieu. Deuxième point, qu'est-ce que ces deux mots nous disent au sujet de Dieu? Tout d'abord, ils nous disent que Dieu est souverain. Et c'est une bonne nouvelle, parce que s'il est souverain, il contrôle activement tous les événements dans ce monde qu'il a créé, et qu'il peut donc intervenir pour notre salut. Et ces mots vont avec ce qu'il a dit au chapitre 1 que nous avons lu au sujet de la souveraineté de Dieu dans les versets 4 et 5. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Il a désiré, il a voulu et il le fait. La souveraineté de Dieu est un réconfort pour son peuple, parce que cela veut dire que celui en qui nous mettons notre confiance est totalement capable d'accomplir sa volonté. Et que rien ne peut l'empêcher d'accomplir sa volonté. La deuxième chose que ces deux mots nous disent, c'est que Dieu est saint et juste. On a lu au verset 3 que nous sommes par nature des enfants de colère. C'est pas quelque chose que le monde, que même le monde, certains dans le monde évangélique aiment entendre aujourd'hui. Mais c'est une réalité parce que cela parle de la sainteté de Dieu. Dieu a dit à Adam que s'il péchait, il mourrait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Bien sûr, Dieu lui a fait grâce, mais Adam est quand même mort bien des années plus tard. Et nous aussi, nous connaissons la mort physique à cause de ce jugement. Mais aussi, nous sommes spirituellement morts par nature. Nous venons dans ce monde en étant spirituellement morts à cause des conséquences du péché d'Adam. Et même la solution que Dieu apporte à notre problème souligne la justice et la sainteté de Dieu. Un théologien puritain du nom de John Owen explique cela. Il dit: Voir Christ, le bien-aimé du Père, craindre et trembler, s'agenouiller et transpirer, prier et mourir, le voir être élevé sur la croix, voir la terre trembler comme si elle n'était pas capable de supporter son poids. Voir les cieux s'assombrir au-dessus de lui. Voir que tout cela était à cause de nos péchés. c'est voir clairement la sainte justice et la colère de Dieu contre le péché. Nous voyons en Christ que Dieu a horreur du péché, qu'il a une haine du péché et qu'il le juge avec une pénalité qui est terrible et effrayante. La troisième chose que ces mots nous disent, c'est que Dieu est aussi rempli de miséricorde et d'amour. Oui, il est saint. Oui, il est juste. Il doit punir le péché, mais il est aussi rempli de miséricorde et d'amour. Ce que ce verset 4 nous dit, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. C'est le pourquoi de l'Évangile. C'est le pourquoi de la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui peut expliquer un évangile qui est entièrement de Dieu, dans lequel des pécheurs, dans un désespoir total, peuvent trouver grâce entre les mains d'un Dieu qu'ils ont offensé? Et la réponse est, c'est parce que Dieu est rempli d'amour. C'est parce que Dieu est amour, comme 1 Jean 4, 8 le dit. Mais la réponse vient aussi de ce passage en Exode 34, verset 6. Moïse, vous rappelez, a demandé à voir la gloire de Dieu. Dieu l'a caché dans un creux du rocher. Il est passé devant lui et il a dit, nous disons, Exode 34, verset 6, l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » L'Évangile révèle Dieu comme il est réellement. L'amour de Dieu est grand. Dieu est riche en miséricorde. Il est riche en bonté. Il est lent à la colère. Même s'il est juste, même s'il est saint et il doit punir le péché, il est encore lent à la colère et riche en miséricorde. Michée 7, verset 18 dit ceci, « Quel Dieu est semblable à toi ?» qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Dieu est rempli de miséricorde et d'amour. Nous avons parlé d'Abraham au début. Abraham était un lâche, il était idolâtre, mais Dieu a manifesté sa miséricorde. Il l'a appelé à le suivre, à devenir le père des croyants. Jacob était un menteur, était un tricheur. Mais Dieu prend plaisir à la miséricorde. Jacob est devenu un homme intègre. Il est devenu le prince du peuple de Dieu. Moïse était un homme violent, meurtrier. Mais Dieu prend plaisir à la miséricorde. Il appelle à devenir son ambassadeur. C'est par lui que Dieu va donner la loi à ce monde. Et on lit en Nombre 12, verset 3, que Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Dieu transforme des vies. On a parlé de David, un adultère, un meurtrier. Mais Dieu, qui prend plaisir à la miséricorde, a amené David à la repentance, comme il le fait pour chacun de ses enfants. Et David a prié ce psaume 51, et au verset 3, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Dieu a eu pitié. Dieu a manifesté sa miséricorde et il a restauré David. L'enseignement de Paul rejoint ce que le psalmiste dit dans le psaume 113, les versets 5 à 8. « Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu ? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il fait miséricorde. Il nous cherche là où nous étions, loin de lui, dans la mort, pour nous amener à la vie avec Christ. Dieu est saint, Dieu est juste, mais il est aussi un Dieu d'amour et de miséricorde. Ces paroles nous révèlent donc ce qui est Dieu. Mais troisième point, ces pas un mot nous disent quelque chose au sujet de la vie chrétienne. Ils nous disent pas seulement comment nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ, mais ils nous disent aussi comment nous pouvons vivre notre vie en tant que chrétiens. Et c'est par l'action de Dieu, c'est par ses interventions auxquelles nous répondons par la foi que Dieu nous conduit dans cette vie jusqu'à la gloire. Et un bel exemple de cela est la vie d'Abraham. Abraham, vous vous rappelez, vivait au début comme un païen, comme un idolâtre en Ur de Chaldée. Mais Dieu l'a appelé à le suivre vers une terre éloignée, la terre de Canaan. Abraham a cru. Abraham est parti. Il a quitté sa famille. Il s'est arrêté. Avant d'arriver à Canaan, il s'est arrêté à Charan. Mais Dieu l'a poussé et l'a fait avancer pour qu'il arrive jusqu'à Canaan. Mais quand il arrive dans le pays de Canaan, il y a une famine et Abraham va poursuivre son chemin jusqu'à arriver en Égypte et c'est là que les choses vont aller mal. Abraham va essayer de sauver sa peau. Il va laisser le pharaon emmener sa femme Sarah. Et on lit en Genèse 12, verset 17, « Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, la femme d'Abraham. » Dieu était à l'œuvre dans la vie d'Abraham. Et Pharaon a donné beaucoup de richesses à Abraham pour qu'il parte, pour qu'il quitte l'Égypte avec sa femme. Abraham remonte, il revient à Canaan. Mais il s'attriste parce que Dieu lui avait promis de donner cette terre à ses descendants et Abraham n'avait aucun enfant. Mais Dieu, un soir, le fait sortir de sa tente, lui montre toutes les étoiles du ciel. Il va l'encourager dans sa foi en lui disant que sa descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Mais Abraham est fatigué. Il est fatigué d'attendre et il va prendre sur le conseil de sa femme, il va prendre la servante de sa femme et elle va lui donner un fils et cela va amener une division dans la famille. Agar, la servante, et son fils Ismaël vont être injustement envoyés dans le désert. Mais Dieu va trouver Agar et va la préserver. Mais Abraham et Sarah étaient désespérés. Abraham avait près de 100 ans, Sarah avait près de 90 ans. Il n'avait toujours pas d'enfant. Mais Dieu va envoyer un ange qui va renouveler sa promesse. Il va aussi ouvrir le ventre de Sarah et elle va finalement donner naissance à Isaac. Avec cette bénédiction de ce fils de la promesse, Abraham était en danger de suffisance. Mais Dieu va lui apporter un nouveau challenge. Et Dieu va dire à Abraham de prendre son fils, le fils de sa promesse, et de l'offrir en sacrifice. Mais à ce stade-là de sa vie, Abraham avait finalement appris à faire confiance à Dieu. Et Abraham a obéi, sans rechigner. Il est monté jusqu'au mont Morija, là où, des années plus tard, Salomon va faire construire le temple. Et il va offrir son fils, il va prendre le couteau pour tuer son fils Isaac, l'héritier de la promesse. Mais là, l'ange de l'Éternel intervient. « Abraham, Abraham !» Il crie et Abraham répond, « Mais voici, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Ça c'est Genèse 22, les versets 11 et 12. Abraham a continué à vivre encore et puis finalement il est mort. Son corps a été placé dans une tombe. Sa vie sur terre s'est terminée. Mais nous savons que Dieu a accueilli Abraham, a accueilli son esprit dans sa présence. Abraham est entré dans la gloire de Dieu et il vit maintenant pour toujours en attendant la révélation finale et la victoire de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela nous montre? Cela montre que la vie chrétienne, la vie avec Dieu, est une aventure glorieuse, avec Dieu comme notre sauveur, comme notre Seigneur, comme notre enseignant, comme notre guide. Dieu nous appelle à la foi et comme Abraham, on n'a aucune idée où Dieu va nous amener. On ne peut pas imaginer les changements dont nous parle la Bible, comment ces changements vont affecter notre vie. Mais la réponse, elle est là dans ces deux mots de l'apôtre Paul. Mais Dieu, nos problèmes ne sont plus vraiment nos problèmes, mais ce sont les problèmes de Dieu. Il est capable d'accomplir tous ses désirs dans notre vie. Je dirais même plus, il est plus que capable d'accomplir tout ce qu'il a prévu pour nous dans notre vie. Parfois, nous sommes conscients que nous ne serons jamais un grand homme spirituel doté d'une foi solide, ayant un contrôle de soi et une dignité. Mais Dieu peut faire de nous un tel homme, une telle femme. La vie chrétienne, c'est un voyage de découverte. C'est un voyage de découverte des merveilles de Dieu, mais aussi des actions de Dieu dans nos vies. Dieu intervient, Dieu dirige. Dieu va nous exhorter dans sa parole, mais il va aussi nous corriger. Il va nous inspirer, il va nous fortifier. Dieu va nous lancer des challenges, mais il va aussi renouveler notre âme fatiguée. Il va nous donner l'encouragement dont nous avons besoin. Il va nous convaincre de pécher. Il va nous tester, mais il va aussi nous fortifier dans notre foi. Et il va nous faire de nous les récipients de sa gloire. Pour que nous puissions dire avec Paul dans 2 Corinthiens 4, verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Dieu est tout suffisant pour répondre à nos besoins. Est-ce que nous sommes ignorants des choses de Dieu? Est-ce que nous sommes ignorants de sa vérité? 1 Corinthiens 2, versets 9 à 10. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montrées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Mais Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Est-ce que nous sommes tentés? Oui, nous sommes tentés comme tout le monde. 1 Corinthiens 13, 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est la réalité. Tout être humain est tenté. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, Dieu préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Encore une fois, mais Dieu. Il y a la tentation, mais Dieu préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Est-ce que nous sommes faibles? Est-ce que nous sommes fous aux yeux du monde? Oui, 1 Corinthiens 1, versets 27 à 29. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Mais Dieu, est-ce que nous sommes, ou est-ce que nous avons été, ou est-ce que nous serons les victimes des péchés des autres? Oui, cela va sans doute arriver. Mais Genèse 50, verset 20 nous dit « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Un commentateur conclut en disant ceci « Si vous comprenez ces deux mots, mais Dieu, si vous vous rappelez de ces mots tous les jours, si vous vivez selon ces mots, ils vont transformer complètement votre vie. » Ces deux mots nous aident aussi à réaliser que nous pouvons suivre sans crainte la parole de Dieu dans tout ce qu'elle dit. Il nous annonce le message de l'Évangile. C'est un message de grâce. Nous ne le méritons pas, mais Dieu, à cause de sa miséricorde et à cause du grand amour, nous qui étions morts dans nos péchés, il nous a ressuscités en Jésus-Christ. Cela parle du message, cela nous parle de Dieu, qui est souverain, qui est juste et saint, mais qui est aussi plein de grâce et de miséricorde. Cela nous parle aussi de la vie chrétienne, que nous pouvons nous faire confiance à Dieu dans la manière dont il nous conduit et dans la manière dont il œuvre dans nos vies. Je citerai simplement le psaume 73, verset 26, pour terminer, où le psalmiste dit ceci: « Ma chair et mon sang peuvent se consumer, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Ma chair et mon sang peuvent se consumer, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et de mon partage. Que Dieu donc nous aide à nous réjouir de cette réalité, de ces deux mots qui font la différence. Mais Dieu, nous étions comme les autres. Ce qui fait la différence n'est pas que nous sommes donnés la vie, parce que c'est chose impossible. Nous sommes par nature morts. Ce qui a fait la différence, c'est « mais Dieu ». Dieu nous a aimés, Dieu nous a cherchés, Dieu nous a donné son Fils, et Dieu nous a donné la vie en Jésus-Christ. Il nous a donné la vie et il nous conduit encore dans cette nouvelle vie jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne ou jusqu'à ce qu'il nous prenne pour être avec lui. Donc que Dieu nous aide à saisir, à nous réjouir de cette merveilleuse réalité, de ce merveilleux évangile, et qu'il nous fasse aide aussi à nous glorifier, non pas en nous-mêmes, parce qu'il n'y a aucun mérite en nous, mais à nous glorifier en lui et en cette grâce qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ. Que Dieu donc bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin. Amen.